Pele Challengers, QLC. Vous écoutez Radio FMR, le supplément week-end va commencer juste après ce programme d'information amoureuse.
What's that? That's in something.
Radio Cliché, la radio web de la compagnie Sans Paradis Fixe. Faite pour la 3e édition, la Saint-Valentin, le 14 février 14. 24 heures de lecture de lettres d'amour, accompagnées en musique, en direct. Love me, tender, pourquoi pas. Les lettres de Franz Kafka, Vaclav Havel, Jean Cocteau, Alain Fournier à Simone, Maria Callas à tout ce qu'elle aimait. Et au milieu de tous ces auteurs-là, il y a aussi vos lettres à vous, celles que vous aurez envie de nous confier, à lire, à adresser à celle ou celui que vous aimez. Alors vos mots d'amour, vous les envoyez à 100 Paradis Fixe, boîte A001, 12 rue Agathoise, 31 000, Toulouse. Soit vos battements de cœur font vibrer le clavier, alors vous envoyez votre lettre d'amour, votre missive, sur 100paradisfixe@orange.fr. 14 février 14, 24 heures de lecture de lettres d'amour. Love me tender. Pourquoi pas? C'est à retrouver sur
Radio Oxygène, Radio Éphémère, Radio Booster et Radio Campus.
Vous écoutez Radio Éphémère, nous sommes le samedi 1 février 2014.
Vous pouvez mettre l'ordinal. Hein.
Ah ben non, mais si c'est pas marqué, je lis que ce qui est marqué, moi. Le programme pour cet après-midi.
Espèce de speakerine bonne qu'à lire les prompteurs.
À 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h du reggae avec John O'Dead. Et ils seront là. Et à 17h, éphémère, c'est de l'antenne à Booster FM sur les 89 MHz de la bande FM. Mais dans l'immédiat, voici le magazine annuel à bulles que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Mais alors vous allez me dire, pourquoi? Parce que j'ai trié tout le courrier? Non. Parce que ça ne plaisait plus à Thomas?
Oh.
Pas tout à fait, puis de toute façon je fais ce que je veux. Non, la réponse est bien plus simple que cela. Jeudi dernier, Xavier et Thomas sont venus chez moi pour manger chinois. En fait c'était japonais mais ça ne rimait pas.
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geek en modulation de fréquence analogique.
Bonjour et bienvenue, bonjour du sport.
Salut.
Et nous sommes à Toulouse, nous ne sommes pas à Angoulême, c'est le festival international en ce moment, il y a le 41e édition du festival d'Angoulême. On va essayer de vous donner des papiers d'ambiance. On va commencer d'ailleurs avec Laurent Ménikian qui est en ligne. Laurent, bonjour. Laurent, je crois qu'on l'a perdu, dommage. Et je crains bien effectivement qu'on ait un problème d'insert téléphonique, ça tombe mal. On va essayer de le rejoindre. Excusez-nous, on a vraiment beaucoup à faire là en ce moment. Alors, je ne sais pas si on est en ligne avec Laurent. Laurent ? Bah, je pense qu'on a vraiment un souci sur un insert téléphonique. Décidément, c'est la radio associative. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche absolument pas. On va essayer, en fait, sur une autre ligne téléphonique. Ça va. On essaie de gérer, en fait. Vous avez compris, donc, nous essayons d'avoir des... Nous avons des envoyés spéciaux, puisque ni moi, ni Ultimatum sommes sur place pendant le festival d'Angoulême. On aura Monsieur Wong, tout à l'heure, que pont devant l'éternel, qui fera un papier d'ambiance sur ce qui se passe en dehors des bulles officielles, à savoir le programme alternatif, le festival off du fait de la ville d'Angoulême. Il y a aussi une grosse actualité. En fait, on essaie de choper Laurent Melikian, qui est journaliste bande dessinée, qui est un ami à nous, qui collabore de temps à autre d'ailleurs à Actua BD, puisqu'il y a eu un gros scandale hier. Donc on essaie d'avoir plus de détails de ce côté-là. On va essayer de voir si c'est possible. En tout cas, d'avoir plus d'informations. Beaucoup aussi d'actualité. Malheureusement, il va falloir commencer, je vais dire, le début d'année un petit peu difficilement, avec la disparition un petit peu triste, hein, je vais dire, de deux dessinateurs. C'est le lot que l'on a chaque année en début d'année, de grands dessinateurs qui disparaissent. Et à savoir, eh ben, on a Cavana qui nous a quitté et Philippe Delaby. On va avoir, on va en parler un peu rapidement, hein, je vais dire, de leur carrière. Et accessoirement, ben, on va aussi parler des 50 ans de Mafalda qui sont mis à l'honneur cette année au festival d'Angoulême. À Toulouse, néanmoins, pour ceux qui nous écoutent, ne vous inquiétez pas, il y a des festivités comme chaque année. C'est en même temps le festival, ça nous agace. C'est le 7e festival Made in Asia, avec cette fois-ci le pays qui est à l'honneur, c'est le Vietnam. On va aussi un petit peu rapidement parler du programme, puisque la radio FMR étant partenaire, nous avons accordé une très très grande place à l'antenne à ce festival. Vous le retrouvez d'ailleurs pendant les programmes impromptu culturel entre midi et 13h, et aussi dans la tranche 17-19, et aussi invité dispersé, mélangé un petit peu partout, tout un continent à découvrir en ce moment sur nos ondes sur les 89.1 MHz. Je pense que, vu comment l'actualité va être un petit peu difficile, du sport, est-ce que tu peux parler donc de la carrière de Cavana qui nous a quittés? Tu sais que j'ai pas fait mon papier parce que tu devais le faire.
Ouais, mais j'ai complètement droppé. Alors là, franchement, quoi, j'ai complètement droppé. Bon, je peux vous faire un topo vite fait.
Vas-y.
Hein, vraiment. Mais alors, ça va être de tête, de mémoire et tout, et avec, voilà, c'est tout. Hein. Y a pas de problème, quoi. Alors, moi, j'ai rencontré Cavana, comme tous les gens de, enfin, comme pas comme tous les gens, mais comme pas mal de gens de mon époque, dans Harakiri Hebdo. Harakiri Hebdo, qui était un petit peu la déclinaison du magazine qui au départ s'appelait Harakiri, et qui avait été créé par Choron, par Cavana, GB, mais il y avait également toute une nébuleuse autour avec Topor et des nouveaux dessinateurs, on va dire plus dessinateurs de strip que de bande dessinée, quoi, tels que Wolinski, Razer est venu un petit peu par la suite, et il y avait encore bien d'autres, il y a Fred également qui a participé un petit peu à l'aventure aussi de Harakiri au départ. Et donc Cavana, lui, était plutôt dans le registre écriture, hein, c'est-à-dire que bon bah il a scénarisé quelques petits trucs, quelques petites bandes dessinées, quelques petits strips où il travaillait en collaboration avec des dessinateurs pour des dessins une case, mais son gros au départ ça a été l'éditorial assez politique, on va dire. Puis, un petit peu plus tard, au niveau de l'écriture, bah, il s'est lancé un petit peu dans, on va dire, ses mémoires, hein, on va dire, avec l'Hérital. Mais ça, là, on était déjà dans les années 70, car l'Hérital était sorti à l'époque en texte à suivre dans le Charlie mensuel. À l'instar d'autres textes, hein, d'autres romans qui sont sortis également, quoi, après être passés par épisode à suivre dans Charlie mensuel. Et Cavada, lui, bien par la suite, est devenu un petit peu l'un des fondateurs, de toute façon, de Charlie. Donc, bien que financièrement, au bout d'un moment, hein, c'est Choron qui a toujours gardé les droits, Georges Bernier, quoi, en l'occurrence, quoi, de son vrai nom, et c'est Choron qui a pu faire ce qu'il en voulait. Et des fois, bon, ça a un petit peu déplu à l'autre frange des fondateurs de Charlie Hebdo, de Harakiri Hebdo et tout ça, quoi, parce que, bien, Choron n'était pas exactement du même bord politique, on va dire. Hein, pour faire large, quoi. Mais enfin, ça n'a jamais été un problème entre eux pour monter le canard, car eh bien, ils avaient quand même une dimension qui était anard, on va dire, mais très pluraliste. C'est-à-dire, ok, quoi, on peut pratiquement écrire tout ce qu'on veut. D'ailleurs, par la suite, il y a pas mal de collaborateurs originels ou des premiers jours qui ont viré un petit peu plus sur la droite, on va dire, ou se sont un petit peu assouplis en rejoignant les rangs des socialistes. Ça, c'est pour le côté politique. Cavana, quant à lui, il a été encore de la dernière affaire, enfin, disons, quoi, de la grosse Bertha au moment de la réapparition de feu Charlie Hebdo, grosse Bertha pendant la première guerre du Golfe, si je ne m'abuse, ou la deuxième, mais dans les années, au début des années 90, puis c'est devenu le canard qu'on sait avec tous ces éditorialistes. On sait que à partir du moment où un certain Philippe Val est rentré dans le journal, ça a causé quelques heures, on va dire, entre ces membres originels qui étaient toujours un petit peu plus dur et un petit peu plus plus rentre dedans en ce qui concerne les idées politiques et la marche à suivre. Bref, enfin, en tout cas, on retiendra surtout de Cavana que ça a été un formidable vecteur pour à l'instar de pas mal de gens, quoi, d'ailleurs, qui faisaient partie de l'équipe originelle. Mais il a toujours été un fil conducteur, hein, qui a suivi l'aventure pratiquement jusqu'à la fin. Hein, et ça, c'est quand même assez sympa. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire, pourquoi Harakiri Hebdo est devenu Charlie Hebdo, c'est à la suite de cette fameuse couverture, suite à la mort du président de Gaulle, balle tragique à Colombey de mort. Le journal a été interdit et ressorti sous le nom bien satirique de Charles de Gaulle, bien sûr, Charlie Hebdo, quoi. Donc 15 jours après l'interdiction, de toute façon, quoi.
François Cavana qui nous a quitté donc à l'âge de 90 ans.
90 ans quand même.
Plus d'infos sur le site Actu.
Alors
ABD.
Vous pouvez lire ses bouquins, parce que ces bouquins, ce sont des tranches d'histoire. Il y a pas de problème. Hein. L'Hérital, les Ruskov, ça c'est important. C'est sa jeunesse, quoi. Donc vous les jeunes, quoi, à 20 ans, 25 ans, lisez ce qui se passait il y a des années. Vous verrez, quoi. Ça change pas beaucoup.
Merci Idus. Nous avons enfin en ligne Laurent Melikian. Laurent, bonjour. Désolé pour le plan foireux tout à l'heure.
Ouais, sur des choses qui arrivent.
Merci beaucoup. Donc, journaliste de bande dessinée, chroniqueur et aussi monteur d'exposition. Tu avais fait plusieurs expositions, notamment sur la bande dessinée.
La bande dessinée chinoise, la bande dessinée Philippe, par exemple. Oui.
Oui, il y en a eu beaucoup à chaque fois. Là, cette année, tu accompagnes en fait plus ou moins les Sud-Coréens. D'après ce que j'ai compris.
Disons que les Sud-Coréens, enfin le Comacon, donc qui est une association coréenne qui est présente ici avec un manhwa café dans le stand, dans la bulle Little Asia, a fait appel à moi pour une rencontre avec deux auteurs coréens de ce qu'on appelle la nouvelle vague. Donc c'est Yonsi Krong et Jisushin. Donc la rencontre aura lieu tout à l'heure à 15h. Donc du coup, j'ai un peu suivi ce qui se passait autour de la Corée ici.
D'accord. Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, d'après ce que... On va d'abord placer un petit peu géographiquement le festival, comment il disposait comment il est disposé cette année, à savoir sur la place Saint-Martial, à côté donc d'une grande église et pas très loin en fait du tribunal de grande instance où il y a une exposition sur les femmes, sur les violences qui sont faites aux femmes. Il y a donc une bulle qui est consacrée.
L'exposition est exactement au théâtre.
D'accord.
Pas au tribunal, voilà.
Ok, donc elle a été déplacée. Il y a une bulle qui est consacrée à la bande dessinée asiatique. Donc il y a l'ex-Coca donc qui est présent en force. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des éditeurs un petit peu de tout le continent asiatique qui sont présents sur place.
Oui, enfin, exactement. Il y a un stand quasiment officiel taïwanais, un stand également très proche des officiels coréens qui sont installés là. Il y a un petit stand chinois et puis aussi des vendeurs de produits dérivés tirés de l'univers du manga.
D'accord.
Qui sont présents. Voilà, donc c'est vraiment pas une très très grande bulle.
Et donc il y a une exposition qui présente en fait un drame historique qui a eu lieu pendant l'occupation de la Corée du Sud par le Japon, à savoir les femmes de réconfort.
C'est-à-dire
des femmes qui ont été violées par les déportées dans des camps d'entraînement.
Des femmes qui ont été kidnappées, déportées et prostituées de force, utilisées comme esclaves sexuels pendant la Seconde Guerre mondiale par l'armée impériale japonaise. Donc, ces femmes, elles étaient coréennes, mais aussi chinoises, philippines, vietnamiennes,
oui.
et même quelques occidentales, notamment des hollandaises raflées en Indonésie. Donc, ça fait partie des crimes contre l'humanité qu'on peut imputer à l'armée impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et qui n'ont toujours pas été jugées d'ailleurs.
Un petit peu quand même, il y a eu des jugements, il y a eu quelques indemnités qui ont même été qui ont été données, accordées à quelques victimes. Alors le gouvernement japonais dit de la part du Japon, mais en fait c'est plutôt des associations privées japonaises qui ont donné ces indemnités. Donc il y a quand même eu des jugements. On sait que ce fait est un fait historique avéré. Qui a même été reconnu par le gouvernement japonais. Mais aujourd'hui, certains organismes japonais révisionnistes voudraient que le gouvernement se dédie, l'État japonais se dédie de cette reconnaissance.
D'accord. Et c'est vrai que il y a une extrême droite japonaise qui est très très très, qui a toujours été extrêmement présente au Japon et qui pèse énormément.
Au gouvernement.
Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une inauguration, d'après ce que j'ai compris, donc de cette exposition par un ministre de la culture sud-coréenne.
Exactement. Alors attends, je vais.
On va aller dans l'ordre peut-être. Oui.
Sur, je dirais le calendrier. Donc il y a eu une exposition commandée par le ministère de l'égalité des hommes et des femmes coréens. À différents artistes coréens à partir de témoignages réels de femmes de réconfort. Les femmes de réconfort, donc ce sont ces femmes qui ont été kidnappées et prostituées de force. Cette exposition avait pour but d'être exposée ici à Angoulême et plus tard en Corée, elle a toujours pour but de l'être. Certaines associations japonaises ayant eu vent de cette de l'éventualité de cette exposition ont commencé à se mobiliser arguant du fait que eux n'avaient pas droit au chapitre. Or un éditeur japonais a pris un petit stand ici dans la bulle Little Asia, et mercredi soir, la veille de l'ouverture, on a eu la surprise de voir que ce stand était un stand qui niait l'histoire des femmes de réconfort par des banderoles, et qui ne proposait qu'une seule chose, un livre, un manga traduit en français pour nier toute cette affaire.
Ah oui, donc il y a eu vraiment un investissement de ce côté-là et un coup médiatique qui voulait être fait, quoi.
Et exactement. Donc les organisateurs du festival d'Angoulême Et notamment Nicolas Finet, responsable entre autres hein, de Little Asia, ont tout de suite demandé à ces gens de partir. On fait constater par huissier leur démarche. On saisit du matériel. Étant donné qu'en France, évidemment, le révisionnisme et le négationnisme sont interdits par la loi.
Oui, tout à fait. Ce ne sont pas des opinions, ce sont bien des délits. Hein. On est bien d'accord.
Ce sont des délits. Alors, on ne va peut-être pas s'étendre sur exactement sur les raisons pour lesquelles c'est assimilé à un délit, mais voilà. Donc, et en plus de ça, j'ajoute que Nicolas Finet est un des rares spécialistes du manga à être vraiment très au fait du problème du révisionnisme au Japon. Et à être très sensible à la question. Donc, non seulement ces gens ont été invités à quitter immédiatement le festival, mais également Monsieur le maire d'Angoulême était au courant, a tout de suite été mis au courant de cette affaire et lui-même a commencé à consulter les probabilités de troubles à l'ordre public que pouvait amener la présence de ce stand.
Oui, puisque en tant que premier magistrat, effectivement, il a pouvoir de police là-dessus.
Exactement. Le lendemain, inauguration de l'exposition au théâtre, en présence de Madame la ministre coréenne. C'était la première fois qu'un ministre étranger venait inaugurer une exposition pendant le FIBD, pendant le festival. À ce moment-là, l'ambiance était très tendue. Des gens qui faisaient partie de ce stand étaient présents. Et énormément d'équipes de télévision asiatiques étaient présents également. J'étais là. Et au départ, je me suis dit, tiens, il y a des différentes télévisions coréennes sont présentes pour filmer la ministre en train d'inaugurer cette exposition. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des équipes japonaises. Et que les équipes japonaises étaient même plus présentes que les équipes coréennes.
Ah d'accord. Voilà. Donc là, il y a vraiment eu un coup médiatique bien monté de ce côté-là.
Voilà, et visiblement, alors j'ai pas beaucoup de temps pour consulter Internet et surtout pour aller traîner sur les sites japonais, donc je n'ai pas l'habitude, mais visiblement, l'affaire fait grand bruit au Japon.
Ah ben écoute, il y en a qui me répondent sur Twitter, donc je pense que qui sont sur place, donc je pense que l'info va remonter.
Donc voilà, alors je ne sais pas ce que tu as comme information de ton côté.
Rien de plus, sinon, Giner de. Ah, je vais y arriver. Je vais y arriver finalement. Paul Giner de Varmark et Vartmag et Kazmat qui dit qu'il y a des photos bien visibles sur le compte, sur des comptes Facebook. Notamment, il y a même l'Américain Tony Marano qui en a posté quelques-unes.
Oui, alors Monsieur Tony Marano est un Texan qui prétend avoir des documents prouvant que. Alors l'argumentaire, c'est nous ne nions pas le fait que. Qu'il y ait eu des femmes de réconfort dans l'armée japonaise. Il y en a eu, nous le reconnaissons, mais il s'agissait de prostituées qui étaient payées, et même très bien payées, pour faire ce métier.
Tiens, c'est marrant, c'est exactement les mêmes arguments qu'on a entendus en France vis-à-vis de certaines femmes qui avaient été...
Mais tu sais, les argumentaires négationnistes, la dialectique négationniste est toujours la même, quel que soit... le point d'histoire sur lequel ils se posent. Il y avait dans leur bande dessinée que j'ai achetée et que aujourd'hui j'ai confié au service juridique du FIBD, il était question de lobby chinois et sud-coréen. Donc tu vois des mots qui réapparaissent tout le temps.
Enfin, une fois
que j'en étais, du coup.
Bref, l'inauguration s'est faite. Il y avait les caméras qui étaient présentes sur place et était tendue, quoi.
Sous tension. Était tendue. Beaucoup de questions ont été posées par des Japonais. Ah oui. Ce que je voulais dire, c'est que de mon côté, j'ai pu m'entretenir avec un correspondant japonais en France, correspondant d'une revue qui semble être plutôt à gauche. Il m'a signalé que les gens présents sont proches d'une publication qui s'appelle Jisei Shimbun, au Japon. Et selon lui, ce magazine, qui est financé par un entrepreneur japonais, aurait financé également ce stand. Et hier, je me suis retrouvé confronté à un journaliste japonais se présentant comme un journaliste d'un news magazine classique. Et petit à petit, j'ai appris que lui-même était journaliste pour ce magazine Shinsei. Donc la présence de cette mouvance est très forte, ici. Et donc lui-même avec la même rhétorique, hein, les femmes de confort, oui elles ont bien existé, mais c'était des prostituées. Ce à quoi j'ai répondu, donc non seulement vous niez qu'il y ait eu des esclaves sexuels raflés par la main impériale japonaise, mais en plus vous les traitez de prostituées. Donc vous niez leur malheur, vous niez le crime et vous crachez sur les victimes. C'est d'une élégance incroyable.
On imagine quand même, voilà, que la situation est assez difficile. Comment le... Bon, on n'est que samedi midi, les événements ont eu lieu en fait jeudi principalement. Comment l'a vécu d'abord le cabinet de Madame la Ministre? Et justement, est-ce que ça risque d'être un problème, est-ce que tu penses que ça pourrait être un problème diplomatique entre la France et la Corée du Sud ou la France et le Japon?
Alors, je n'en sais rien. Le ministère des Affaires étrangères japonais a diffusé un communiqué en salle de presse, communiqué disant que le gouvernement japonais reconnaît le drame des femmes de réconfort et est très attristé par le drame des femmes de réconfort, et que citant des accords internationaux datant des années 60, ces femmes de réconfort ont été indemnisées. Avec des chiffres. C'est la teneur du communiqué. Donc c'est, je dirais, presque un communiqué appuyant... il n'y a aucune allusion à l'exposition. Dans l'exposition, il n'est pas question d'indemnisation des victimes. On se demande qu'est-ce que c'est que ce communiqué. Qu'est-ce que veut dire ce communiqué? Franchement, si on...
Est-ce que tu penses que vraiment c'était un... il est vraiment génuine, quoi? Est-ce que vraiment tu penses qu'il est d'origine, ou est-ce que tu penses que là aussi il y a peut-être eu une manipulation, une falsification?
Je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que ce communiqué est vraiment par rapport à ce qui se passe à Angoulême. On a l'impression qu'il est détaché de tout contexte.
D'accord.
Et en tout cas, pris au premier degré, il approuve plutôt cette exposition et dément les allégations des organisations présentes ici, des organisations japonaises présentes ici.
D'accord. Laurent,
Ce que je retiens, je voudrais juste te dire, oui, j'étais assez... assez
complet, non, mais c'est très bien. C'est vrai qu'il y a encore une situation diplomatique et très tendue de toute façon entre les deux pays, oui. Puisque par exemple, il faut savoir qu'en Corée du Sud, les médias japonais sont grouillés et inversement de l'autre côté. Les officiels de la Coupe du Monde de foot s'en sont beaucoup voulu d'avoir voulu organiser dans les deux pays en même temps. On comprend que c'est très difficile encore, que c'est vraiment les braises ne sont pas éteintes et qu'il y a toujours des allumés pour jeter de l'essence sur le feu. On sent qu'il y a une certaine émotion de ton côté.
Oui, tout à fait.
Est-ce que tu
peux... Oui.
Non, vas-y, oui, vas-y.
Une chose à dire, je pense qu'on a eu beaucoup de chance que un tel incident entre guillemets intervienne ici à Angoulême. D'une part avec un spécialiste de la bande dessinée asiatique au fait de ce problème, un service juridique réactif, une municipalité également réactive, tout à fait consciente des problèmes que peuvent entraîner un tel incident, et une organisation qui, dans le fond, n'a pas besoin de soutien japonais pour exister. Que se passera-t-il si ces mêmes personnes décident de prendre un stand, par exemple à Japan Expo à Paris, ou dans d'autres festivals, plus petits festivals de bande dessinée en France, voire dans d'autres petites, événements de moindre importance autour du manga. La question reste posée. Pour moi, certains mangas publiés présentent des caractères révisionniste, publié en France, hein, et en français. J'aimerais appeler les gens, les médiateurs dans le domaine de la bande dessinée japonaise à la plus grande prudence par rapport au contenu de certains livres et par rapport à la présence de certains artistes japonais dans les événements en France.
Eh ben écoute Laurent, on te remercie énormément d'avoir pris du temps parce que je sais ce que c'est que le Festival d'Angoulême, on galope partout, on a des rendez-vous de tous côtés et tu as pris le temps vraiment pour nous l'expliquer alors que je pense quand même là tu es entre deux rendez-vous. Je pense qu'il y aura sûrement des suites et que toi-même de toute façon en tant que premier témoin et surtout en tant que journaliste tu vas le témoigner sur un support. Donc on attend ça avec impatience.
Je vais faire un article pour Actua BD. Ça va me prendre du temps parce que
oui, ouais, on imagine qu'il faut peser.
Voilà, et ça fait un certain temps que je suis ces affaires et donc je crois qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à synthétiser aujourd'hui autour de la question de la mémoire japonaise et comment elle s'exprime à travers les mangas ou comment elle ne s'exprime pas à travers les mangas.
Alors avant de te libérer, moi je voudrais juste te poser une question qui est purement, mais tu me connais, provocatrice. Est-ce que finalement tu préfères un scandale genre comment nominer le Grand Prix de la ville d'Angoulême ou est-ce que tu veux justement ce genre de scandale qui remette en cause un peu la responsabilité des auteurs et justement rappelle que la bande dessinée n'est pas complètement innocente, la bande dessinée peut aussi être politique.
Oui, alors ben ça... C'est éminemment politique je dirais même que le choix du représentant de la bande dessinée pendant un an, qui est le président du Festival d'Angoulême et ensuite membre de l'Académie des Grands Prix, c'est éminemment une question qui doit aussi se traiter sous l'angle politique. On ne peut pas y échapper. Curieusement, cette année, les auteurs qui ont voté ont eu le choix entre trois noms, un auteur britannique, un auteur américain et un auteur japonais. Il semblerait que sur les trois, le seul qui soit à peu près prêt à assumer son rôle de président, c'est le japonais.
Oui, puisque il y a une interview d'Alan Moore qui vient d'être publiée sur Actua BD il n'y a même pas 10 minutes, puisque c'est donc le représentant anglais qui a dit qu'il n'était pas intéressé par les honneurs.
Voilà.
Et Bill Watterson, on l'a pas vu depuis un bail.
Oui, donc enfin on l'a même quasiment jamais vu. Otomo, lui, que je n'assimile pas au révisionniste japonais, enfin je l'espère. J'espère que lui ne transforme pas cette idéologie. Lui a été chevalier des arts et des lettres, nommé chevalier des arts et des lettres à Paris, est venu à cette occasion. Donc on sait que c'était il y a une dizaine d'années, on sait qu'il peut se déplacer. Il peut éventuellement avoir un rôle actif dans un festival. Il faut dire aussi que la présence japonaise, en dehors de ce stand donc qui a été expulsé à Angoulême, est très 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 rare cette année. Que ce soit les éditeurs français de manga. Ou d'autres invités japonais, la programmation est très très peu. Je crois que j'ai jamais vu une programmation aussi peu nippone depuis 20 ans.
D'accord, ok. Sachant voilà, que Thomas avait dit que c'était dommage puisqu'il y a eu une exposition d'annulée alors qu'un auteur était censé être mis en avant. Bon.
Ah bah voilà. L'an dernier, il devait y avoir deux présidents cette année. Hein. Il devait y avoir Akira Toriyama et il devait y avoir Willem. Donc on voit aussi les limites du vote provenant des auteurs. Et si tu me permets juste une dernière remarque, je trouve même très prétentieux de la part du festival d'imaginer que puisque Angoulême est le plus grand festival de bande dessinée au monde, eh bien n'importe quel grand auteur acceptera pendant un an la charge de président.
Je comprends tout à fait. En tout cas, c'est une très fine analyse.
C'est
une très fine analyse. Merci énormément, en tout cas, de ton témoignage, Laurent. Et puis, tu es bien évidemment le bienvenu dans le Supplément Week-end. En tout cas, on te remercie énormément. Bien à toi. Bon festival pour la suite.
Ça marche. Salut à tous.
Bien à toi. Ciao. Laurent Ménikian qui était avec nous en direct par téléphone d'Angoulême pour revenir donc à ce scandale politique qui a eu lieu jeudi, un stand révisionniste japonais qui avait traduit et qui proposait en fait de la propagande, hein, ni plus ni moins, révisionniste, niant en fait l'existence du drame des femmes de réconfort qui avaient été raflées par l'armée japonaise pendant l'occupation, pendant l'occupation de la Corée du Sud et pendant la Seconde Guerre mondiale. Un autre auteur nous a quitté en début de semaine, en fait. Ça a été un choc là aussi, parce que c'est un auteur qui a eu une carrière relativement courte, en fait. Enfin, une carrière reconnue relativement courte. Et c'est bien dommage parce que c'était vraiment un très 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 bon dessinateur. À savoir Philippe Delaby, qui nous a quitté à 53 ans, brutalement, d'une crise cardiaque. Il était le dessinateur de la série Murena et ensuite il a pris la suite sur les complaintes des Landes perdues. Il avait un trait réaliste extrêmement précis. Il s'est révélé en fait en faisant de la bande dessinée historique, puis ensuite de la bande dessinée en costume, hein, c'est-à-dire romancée autour de faits historiques, dans le journal de Tintin. Et après son arrêt, il va rencontrer le scénariste Jean Dufaux. Et entre les deux, il y a quelque chose d'important qui va se passer. Il y aura une complicité qui va se créer au fur et à mesure. Et ils vont se lancer dans un péplum, un genre qui est principalement à l'époque occupé par Alix et quelques sequets d'années d'Alix. Et ils vont lancer la série Murena qui se passe à l'époque de Néron. Donc c'est là aussi, il y a une politique assez lourde qui est racontée. Il y a une précision, une qualité graphique magnifique. Il y a c'est un vrai roman. Vraiment du bonheur à lire. Il y a la qualité du scénario, l'esthétique réaliste du dessin. Ça en fait un succès quasi immédiat, ça avait bien décollé au milieu des années 90. Par la suite, Philippe Delaby, qui souhaitait un petit peu sortir de cette période de temps à autre, se faire des petites pauses, reprendra les complaintes des Landes perdues à la suite de Rosinski, toujours sur un scénario de Jean Dufaux, et avec qui donc tous les deux ils avaient une réelle complicité, et vraiment leur talent à tous les deux, chacun dans leur domaine, donner des albums de bande dessinée vraiment d'excellente facture. On avait vraiment une marque en bande dessinée qui s'était fait. Il a été emporté par une crise cardiaque donc en début de semaine. C'est un dessinateur à la carrière beaucoup trop courte en rapport vraiment à la qualité de ses albums qui nous a quitté. Philippe Delaby à 53 ans. We'll be right back. Vous écoutez Radio FMR sur 89.1 MHz. Et nous avons Monsieur Wong au téléphone. Monsieur Wong, bonjour.
Oui, bonjour. Supplément week-end.
Comment vas-tu?
Ça va bien. C'est bah oui, je suis dans la salle de presse, donc
sous les ors de la République.
Voilà. Ah, oh là là, mais c'est beau, hein. Il y a des dorures partout, des plafonds. On pourrait y mettre des mezzanines.
Ah oui, oui, bah c'est les ors de c'est la grande salle de mariage de la mairie d'Angoulême.
On se marie ici.
Ah oui, 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 tout à fait. Dans un superbe château digne des contes de fées, hein, quand même.
Je suis avec mon assistante et tu sais qu'on peut se marier ici. Eh ben, c'est la salle de mariage. Bon, bah, rien à voir avec la BD, par contre.
Non, pas du tout.
Ça manque de bulles.
Oui, c'est le cas de le dire. À mon avis, tu vas rafler après quelques alcools à consommer avec modération. Mais toi, je te connais, t'en as relativement peu. Et c'est avec du Schweppes, c'est pas mal.
Ouais.
Sans pub. Ceci dit, donc. Toi, ton trip, c'est pas franchement la bande dessinée franco-belge ou le manga et tout ça, c'est l'underground.
Voilà, on a eu du mal, on a demandé à l'accueil des pros de la presse où était le FOF, qui s'appelle le FOCOF, hein. Et il n'est pas inscrit du tout sur le plan.
Non. Faut pas prendre les plans officiels pour ça, malheureusement. Il faut flirter, il faut essayer de trouver.
On a réussi à trouver quelqu'un qui a appelé. 2-3 personnes et qui nous a dit que c'était pas très loin. Et donc voilà, ça y est, on est au courant, on va pouvoir s'y rendre. Et puis voir tous les copains, Matt Conture, enfin tous les gens super du fanzine et de la BD Underground, la micro-édition, qui d'ailleurs, j'ai l'impression que depuis cette année, commence à être dragué par les gros éditeurs.
Oh, ça fait un bail, hein. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment un bail, c'est pas une nouveauté, quoi.
Là, il y a un vernissage pour d'Arte qui veut lancer en mars un festival qui s'appelle Pulp à Marne-la-Vallée. Deux BD très connotés underground, donc ils veulent essayer de récupérer l'underground pour en faire un truc hype. L'underground devient très très hype avec tous ces
acteurs là, forcément. C'est pas la première fois, je crois même qu'il y avait eu une tentative d'approche des Requins Marteaux de leur part il y a une dizaine d'années.
Oui, bah, les requins se sont un peu vendus, hein. Ils ont besoin d'argent, ils ont des enfants.
Bah, c'est des requins. Et après, non, je sais, elle est nulle. Est-ce que tu as un petit peu fureté? Est-ce que déjà tu es descendu, tu es allé sur la bulle New York pour aller voir déjà les indépendants qui sont présents sur place?
On n'a rien fait là. On a dormi, on a bu des bières chez notre ami.
Oh, l'escroc!
Voilà. Et après, on est allé dormir et puis on a fait l'amour ce matin. Et après, on commence tout juste à découvrir la ville.
Si t'es jamais venu, tu vas voir qu'il ne faut pas le découvrir le samedi. Le samedi, la population d'Angoulême double. Et tu peux plus marcher dans les rues. Donc tu vas souffrir.
De toutes les langues.
Donc voilà. Donc écoute, tu nous raconteras ça la semaine prochaine.
Voilà, c'est mieux. Comme ça, à froid.
Tranquille.
Dur, à chaud. Enfin non, à froid, ça sera mieux.
À froid, ça sera mieux. De toute façon, je pense que tu vas aller dans. Ah, je crois qu'il a fermé d'ailleurs. Il y avait un bar spectacle justement pour tout ce qui était underground.
Il y a des concerts ce soir avec. Les morts vont bien, Jessica 93, tous les bons groupes d'Amiens et de Paris et de Bordeaux. Donc de la new wave bien débile punk.
Oui, quelque chose qui te convient bien, quoi.
Bah oui.
Bah oui, bien sûr. Non,
sinon, je serais pas venu. Hein.
Tout à fait. En tout cas, on espère que tu vas bien t'éclater. Et chaque année, il y a une bonne expo indé. Performance à la Chambre de commerce et d'industrie. C'est juste à côté de France 3, juste en sortant de la mairie.
D'accord.
T'auras peut-être un plan, je pense. J'ai pas regardé cette année, j'ai pas fouillé. Je pense que là, tu devrais avoir des bons trucs.
On va essayer.
Allez, bien à toi, tu nous raconteras tout ça. À plus.
Ouais, tout à fait.
À plus.
Ciao.
Je le retiens, l'excro.
Tu t'attendais à quoi?
Non, non, mais il m'a promis quand même, hors antenne, ouais, j'ai fait un coitus interruptus tout à l'heure pendant la réunion de rédaction. Il m'en veut pour ça. Donc, il m'a dit qu'il reviendrait avec quelques interviews. Donc, on verra ce que ça va donner. Ça pourrait être fun, ça pourrait faire un débrief qui va beaucoup nous changer pour une fois sur le festival d'Angoulême. Et il faudrait parler un petit peu d'une expo, d'une petite fille qui a 50 ans cette année, à savoir Mafalda, si vous ne la connaissez pas. C'est un personnage vraiment emblématique qui est connu dans le monde entier et qui en Argentine a vraiment eu une importance. Il faut savoir que l'Argentine est un pays de bande dessinée, hein, puisque à Buenos Aires, y a commencé un certain René Goscinny. Il y a eu aussi un certain Hugo Pratt qui a travaillé pendant un bail.
Muñoz,
effectivement, quand il avait été président, il avait fait venir des groupes de flamenco, c'était super. Et là, il y a un personnage sur lequel personne ne pouvait passer à côté, bien évidemment, et surtout là pour ce demi-siècle, Mafalda.
C'est différent des auteurs que tu as cités précédemment, parce que c'est strip. Donc
pur.
C'est du strip, donc c'est pas la même chose.
Goscinny, Goscinny et il avait fait des strips à l'époque. Hein, il faisait pas des pleines pages, donc quand même. Attention, attention. Mais donc, je vais un petit peu raconter l'histoire de Mafalda. Mafalda, en fait, ça commence par l'histoire de Joaquín Lavado. C'est un dessinateur publicitaire argentin qui est approché par une firme d'électroménager, Mansfield, afin de concevoir une BD publicitaire en format strip pour vanter la marque. Bon, le pitch. Bon, allez, vous allez me faire une bande de gamins et le personnage principal doit commencer comme le nom de la marque, avec les lettres M et A. Alors finalement, la commande n'aboutira pas. Mais les personnages, eux, connaîtront une popularité immense, puisque 2 ans après, on est en 1964, Joaquín Lavado va signer sous le nom de Kino un strip qui va lancer, et donc c'est l'histoire de... Ce sera les premières aventures de Mafalda. C'est d'abord publié dans le journal Primera Plana, elle passera ensuite dans le quotidien El Mundo. Attention, El Mundo de Buenos Aires. Pas confondre avec le quotidien espagnol. Et Mafalda, c'est l'enfant aîné d'un couple de la classe moyenne. Elle a une intelligence vive, mais un physique un petit peu ingrat. Elle est régulièrement indignée parce qu'elle entend aux infos. Et là, elle dit en éprimant quelque chose, une vérité, un truc comme ça qui l'agace. Elle va lever le poing ou manier involontairement un humour très féroce. Par exemple, ainsi, il faut savoir qu'elle a appelé bureaucratie sa tortue, ce qui est très sympa hein, quand même. Donc vous voyez le niveau qu'elle a. Et ses parents d'ailleurs sont très souvent totalement décontenancés par les vérités qu'elle pointe. Bref, c'est vraiment la signature éditoriale idéale d'un quotidien de qualité. Et chacun des gamins de la bande ont leur petite touche. Par exemple, il y a le voisin Felipe, que croise Mafalda évidemment tous les jours en allant à l'école, qui est un doux rêveur, un humaniste, et on le voit tout le temps avec son chapeau de cow-boy parce qu'il ne croit qu'au cow-boy. On est dans les années 60, c'est à la fois la fin de l'âge d'or d'Hollywood, je veux dire même l'âge d'argent, hein, Sam Peckinpah et tout ça, et en même temps le début du cinéma italien western spaghetti. Il y a Manolito qui est issu de parents immigrés espagnols qui sont des commerçants et qui ne pensent qu'au profit. C'est vraiment le capitaliste de la bande et lui, il essaie à chaque fois de tout tourner à son profit, bien sûr. De ce côté-là, il y a Susanita qui est un peu orgueilleuse, un peu petite bourge, quoi, si vous voyez. Il y a Miguelito qui est l'anard de droite et qui voue une admiration sans borne pour Mussolini. Bref, il y a un petit peu une espèce de concentré de la société par les gamins, ce qui est tout à fait normal, ce sont des enfants et ils fréquentent tous l'école publique. Sauf que l'Argentine va connaître un tournant dramatique. Il y aura d'abord un coup d'état militaire en 1966 où le général Ongaria va mettre en place un régime bureaucratique. Ça va être renversé par le Cordobazo, qui est un mouvement étudiant et ouvrier assez violent en 1969, un peu dans la lignée de mai 68. C'est encore les rebonds et qui va faire revenir en place la gauche, mais surtout en fait l'extrême gauche. Et surtout, il y aura le coup d'état de Perón, sanglant et recourant systématiquement à la torture. L'éditeur de Kino, d'ailleurs, Julián Delgado, en mourra, comme d'autres. Et c'est sous la pression, juste cette pression politique assez difficile, que Kino arrêtera Mafalda. Pourtant, Mafalda, quand on le lit, on est surpris. On est surpris justement parce que la vérité sort de la bouche des enfants. Mais il y a des choses que Kino ne peut pas dire. Ainsi, quand officiellement Perón devient président... dictateur de l'Argentine, la bande dessinée de Mafalda sera sans bulle. Et Mafalda a eu un impact international, vraiment, de ce côté-là. Elle est toujours vendue en France à plusieurs milliers d'exemplaires par an. C'est traduit en France chez Glénat. Glénat qui, d'ailleurs, a fait une excellente intégrale pour les 40 ans. C'est un gros bouquin assez épais.
Ouais, le pavé, là.
Mais énorme, je te l'avais passé.
Oui,
mais... adorable. Ah, c'est toi qui l'as ?
Non.
Non, il est chez moi, je le sais. De ce côté-là, évidemment, ce bouquin a été réédité pour l'occasion, pour le Festival d'Angoulême et pour les 50 ans donc de Mafalda. Tous ceux qui ont fait espagnol au collège ou au lycée ont forcément lu un strip de Mafalda en cours, parce que c'est un espagnol qui est relativement accessible, mais en même temps, ça amène des questions, ça amène beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de réflexions derrière à avoir. C'est vraiment en soi une bande dessinée absolument formidable. Et Buenos Aires a donc baptisé une de ses places du nom de Mafalda. Il y a une immense statue pas très loin de là où vivait Kino, puisqu'il a déménagé entre temps. Vraiment, elle a eu un impact culturel très important donc pendant ses 10 années de présence dans les journaux. Kino l'utilise encore occasionnellement. Ainsi, en octobre 2009, Mafalda interpelle Silvio Berlusconi. « No soy una mujer a su disposición. » Je ne suis pas une femme à ta disposition. En réponse à des propos dénigrants tenus par Berlusconi, à la télévision face à une députée de l'opposition. Kino fit parvenir le dessin au quotidien italien La Repubblica, qui le publia du coup en grande double page, et lors de la manifestation féministe, justement en réaction à ça, tout le monde l'a brandi. Écrit en espagnol. Et ça, voilà, c'est la force de Mafalda. De ce côté-là, c'est vraiment une image qui est énorme. Donc oui, on peut avoir un petit look ingrat et quand même, voilà, séduire tout le monde et arriver vraiment à renverser le monde.
Ah ouais. Et une chose que t'as pas dit, c'est que on a de temps en temps comparé ça à Charlie Brown. Les univers qui sont un petit peu semblables, c'est des gamins, très peu les adultes.
Tu parles de Peanuts,
voilà, Peanuts, Charlie Brown,
Snoopy. Ouais. Mais oui, mais Peanuts, ils sont tous déprimés. Ils sont tous déprimés. Tandis qu'eux, ils veulent changer le monde, ou ils sont rêveurs. S'il y a les parents de Mafalda, tu te dis, à la limite, c'est pas possible. C'est pas pour rien que c'est le premier pays en nombre de psychiatres par habitant, Non, moi je pense qu'il y a vraiment une différence entre les deux. D'un côté, Snoopy, c'est très calme.
Ah bah, il y a quand même des similitudes, hein. C'est des strips, c'est dans un monde enfantin, enfin, un monde d'enfants, quoi, on va dire.
Mais
ça a connu un immense succès. Ça fait déjà trois similitudes.
À mon sens, il y a vraiment une différence. La différence,
le thème n'est pas le même du tout, c'est clair.
Il y a le thème, effectivement. La politique est rarement abordée dans Snoopy. Elle est des fois, mais pas tout le temps. Mais par contre, justement, dans Snoopy, c'est que des enfants de la classe moyenne. Tandis que chez Mafalda, il y a une différence. Ça se sent par les parents. Parce que entre eux, ils s'estiment plus ou moins égaux, ou bon, d'accord, forcément, des fois ça râle,
c'est
et
des
tout
enfants,
le reste.
Quoi.
C'est des enfants. Et c'est quelque chose qui est encore à découvrir. Moi, je pense que pour les 50 ans de Mafalda, faites un effort, essayez de choper un strip ou deux, et puis après, vous allez voir. vous aurez envie de vous plonger dans les albums. Bah,
généralement, on craque quand on commence.
Ah ouais. Il y a eu plusieurs dessins animés qui ont été produits en 81. Il y a eu une première version de strip qui durait entre 1 minute et 4 minutes qui a été produite pour la télévision argentine au début des années 70.
Ça avait été diffusé, ça, sur des chaînes françaises, me semble-t-il.
Oui, tout à fait. Hein, ça avait été repris. Ça avait été interrompu suite, effectivement, voilà, aux événements, au coup d'État, je veux dire, militaire. Il y a eu ensuite un dessin animé qui a été fait en 85 et il y a eu une série en 94 qui vient d'être masterisée, qui est en cours de projection justement à l'exposition à Angoulême et qui normalement devrait être bientôt rediffusée en France. Donc peut-être on reverra justement ces animations autour de Mafalda. Faire une petite interruption musicale, c'est le supplément week-end spécial débrief, enfin spécial live avec nos inserts téléphoniques à Angoulême. Vous avez compris qu'on improvisait un petit peu, hein, mais c'est normal, c'est de l'actu. On se fait un petit break musical avec Legs and Arms, extrait de l'album War Room Stories de Breton.
I'll find
Legs and Arms Breton.
Ouais, ils seront prochainement au Bikini, je crois que c'est le 13 février.
Cool, merci de faire un prog musical. Ma foi, il est quasiment 13h, donc on va avoir le top horaire tout à l'heure. Je pense qu'on va y aller tranquille, mollo. Excusez-moi, hein, du coup, parce qu'on avait beaucoup de dossiers qui ont été attrapés et tout ça. On rappelle que en ce moment a lieu le festival Made in Asia, c'est la 7e édition. Le pays invité cette année est le Vietnam. Il y a à la fois du cinéma, du théâtre,
de
la littérature, de la cuisine. Il y a des cours d'art floral japonais d'ailleurs tout à l'heure. Il y a vraiment plein, tout un continent de choses à découvrir. Festivalmedinasia.com pour avoir toutes les informations. Widus.
La télé?
Ouais!
Eh ben, mets le générique là!
Ah
bon, bah, y a pas de générique!
Bon, d'accord, ok, mais attends, je vais y arriver. Oui, je fais plusieurs choses, mais vraiment plusieurs choses à la fois, donc c'est compliqué!
Oui.
C'est compliqué, c'est de la radio! Donc, je crois que malheureusement. Bah, voilà, je suis interrompu par le temporaire, en fait. Qui n'a pas été balancé? Merci, je sais pas ce qui se passe. D'accord. Ok.
Il est 13h
pile. Les scénaristes se suivent et se ressemblent. Les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça. C'est la loi des séries. Ouais, vous serez gentil quand même d'arrêter de me tripoter la table dans tous les sens.
Ouais, mais bon.
Et nettoyer les tables quand vous ramenez des trucs gluants. Quand
ouais,
même.
C'est vrai.
Radio
c'est
de vrai. Punk.
Parce qu'après, le papier, ça colle dessus. Le papier, les livres, les bandes. C'est un peu désagréable.
Ma foi, voilà. Chaque année, le festival d'Angoulême, c'est le moment où la télévision se rappelle que la bande dessinée est le genre littéraire qui se vend le plus en France.
c'est un des nombreux marronniers de la télé, hein. De toute façon, et des
c'est
infos.
C'est hein, quoi, le grand journal. Oh, tiens, maintenant, on va inviter les dessinateurs cette année. D'ailleurs, beaucoup moins.
Ouais.
Pas tant que ça, on a été déçus. Présence un petit peu à gauche et à droite. Hier, il y avait Florence.
C'est Stack,
oui, pardon. Sur France 3, qui a râlé, qui a dit ouais, le mode de vote et tout, etc. Mais c'est tout, ils ont même pas parlé de sa carrière ou de quoi que ce soit. Je trouve ça triste.
Ouais, c'est vrai. Alors, par contre, je te ferai remarquer quand même que pour cette émission qui est simultanée au Festival d'Angoulême, sachant qu'on connaît, nous, déjà, et on le connaît déjà longtemps en avance, quels sont les nominés pour le Grand Prix.
Oui, c'est la première fois où on le sait aussi, voilà, aussi en avance.
Voilà, ouais. Les 35 bouquins, si je ne m'abuse, là.
Ah non, ça c'est la sélection officielle, ouais, il y en a 60.
Ouais, c'est ça quoi. Donc, comment est-ce que tu trouves ce cru?
Franchement, je ne peux. Chaque année, si on doit se poser la question effectivement de la sélection, honnêtement, elle a un intérêt en général, c'est qu'elle a un vaste panel. Mais là, je ne peux pas tout lire. J'en ai même pas lu un dixième, donc je ne peux pas te dire. Voilà.
Ok.
À vrai dire, j'ai même pas pu jeter un coup d'œil approfondi sur le sujet.
Ok.
On était un peu encombrés.
Il y a des bruits déjà qui courent comme quoi certains bouquins seraient déjà dans la liste préférentielle. Hein,
oui, mais les bruits qui courent.
Mauvais genre, entre autres.
Un mauvais genre, oui, bien sûr.
Ok, bon, alors.
Ça, c'est. Il a été moult fois nominé, il est soutenu. D'abord, il a eu le prix de la CBD, donc ça aide un peu.
Ouais.
Il a aussi. Il est aussi question d'ailleurs d'une adaptation télévisée.
Télé, ouais.
Voilà. On rappelle que mauvais genre, donc. On parle justement de travestissement, hein. Donc attention là-dessus, c'est pas pour les enfants.
Ouais, c'est du mature.
C'est du mature. Bon, mature vu.
On passe à la télé à présent. Non, mais j'essaye de le faire parler, quoi, pour que bon, il nous balance quelques petits trucs.
Donc il
a le secret, hein, que vous ne saurez jamais dans les journaux ou dans les autres radios.
Sur actuabd.com, oui, vous aurez les infos et avec des gens beaucoup mieux renseignés que moi et plus au fait justement des rumeurs en cours.
Bon, on passe à la télé à présent avec quelques nouvelles séries, une nouvelle série, on va dire inédite, puis des saisons inédites. Saison inédite, par exemple. Ce soir de Hawaii Five-O, saison 4, le retour de Alex O'Loughlin et de Scott Kahn. Ouais, c'est sympa, c'est pas mal.
Ils vont les passer par paquet de 4, 5 pour se planter comme.
M6.
Pour se planter comme pour Blue Bloods.
Non, c'est quand même une franchise qui marche. Et il faut dire que il y a des épisodes de qualité, ça tient la route quand même, ça continue à tenir la route, c'est ça qui est assez intéressant quoi.
Et surtout il y a de l'humour, c'est ouais. idiot, mais c'est une série policière qui est une franchise historique qui existe depuis un bail, hein, mais il y a cet humour qui ouais. marche très 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 bien.
Ah bah ça fait vraiment buddy movie quoi par moment, c'est ça qui est sympathique, hein. Parce que la série originale, hein, il faut dire que McGarrett, bon bah il plaisantait pas le mec, hein. c'était le mec sérieux. Allez.
Du sport qui se déhanche comme s'il avait 20 ans là.
Ah ouais. Donc saison 4 ce soir à partir de 20h50 sur M6. Sinon il y a également mercredi prochain la saison 13 inédite de CSI. Celle avec Ted Danson, hein, c'est-à-dire le mec qui a remplacé William Peterson. Si vous
salaud.
Suivez bien.
C'est vraiment salaud.
Ok, ça c'est donc mercredi prochain. Mais là, je crois que c'est que par rafale de deux. Oui, il y en a que deux parce qu'en fait, ce sera juste avant. Non, ah mais non, je me trompe
non,
encore.
TF1 s'économise voilà. un peu. Ouais.
Ouais. Bah ils ont compris, je pense que.
Ouais, je pense qu'ils en sortent.
Et ils ont aussi pas mal de produits à diffuser. C'est ça aussi qui fait. Par contre, la seule originale et non encore diffusée, c'est une série qui nous vient des États-Unis qui s'appelle Banshee. Banshee. C'est ce que c'est un Banshee quoi.
C'est un monstre. Si je me trompe, c'est un monstre mythique, non?
C'est pas vraiment un monstre mythique quoi. C'est plutôt dans le registre des sorcières, des harpies, des trucs comme ça quoi. D'accord. Alors Banshee, enfin c'est juste le nom du type qui va être c'est le nom du patelin où le type qui est le héros va se rendre pour une sombre histoire de vengeance. Alors par contre là où c'est plus intéressant, il va devenir le shérif et tout, et puis bon il va devoir combattre pas mal de mecs, des mecs corrompus, des trafiquants, des mecs bien à droite et tout, parce que ça se passe quand même dans un état qui est pas réputé pour son leftisme comme on dirait là-bas. C'est créé par Alan Ball, donc on peut se dire que ça peut être intéressant. Six Feet Under, Trou Bleu entre autres, à l'actif de ce monsieur, et c'est au départ ça a été proposé à la chaîne HBO parce que le ton était quand même assez cru. Alors c'est du moins 12 tout le temps quoi, c'est-à-dire il y a pas mal de scènes de sexe, c'est bien hard, c'est bien violent aussi. Donc on s'est dit HBO pas mal et tout quoi. HBO s'est dit bof, ouais non pas trop quoi, mais n'a pas laissé tomber le bébé parce qu'elle l'a refilé à une de ses chaînes affiliées et l'a diffusé donc sur cette chaîne affiliée qui s'appelle Cinewaz ou un truc comme ça. Le fait est que la série à sa diffusion a quand même pas mal marché et donc une deuxième saison est en cours. C'est Anthony Starr, un illustre inconnu venant de Nouvelle-Zélande. Néo-Zélandais, donc, qui joue le rôle de Lucas Blood, le héros de cette aventure. Banshee, donc, ce sera sur Canal Plus série, mercredi prochain, à partir de 20h50. Ce soir, Arte.
Ah
arrête
oui.
de nous diffuser des documentaires de deuxième partie de soirée sur des musiciens ou des groupes.
Mais c'est
également des groupes. C'est plus des musiciens. Super-héros, l'éternel combat, documentaire en trois parties. Donc, il va falloir être devant sa télé 3 samedi de suite pour suivre
sinon,
ce documentaire
sinon sur
inédit.
Le rattrapage parce que je crois qu'il y a un dossier sur leur site web donc il y aura les vidéos qui seront disponibles en différé.
Voilà, tout à fait. Donc c'est ce soir à partir de 22h35, Super Héros, l'éternel combat, premier épisode, vérité, justice et modèle américain.
Ah bah
yes.
voilà
yes,
ça man. C'est bien pour le festival d'Angoulême.
Exactement,
tout,
exactement. Sur RTL9, une petite soirée JCVD avec deux bons films de JCVD, hein, pas une daube et puis un bon, mais non, deux bons. Mort subite tout d'abord de Peter Ryan.
Full frontal.
Hop. Et le chasse à l'homme de John Woo à 22h40.
Tu as vu la pub de Jean-Claude Van Damme qu'il a fait pour Volvo?
Ah non.
Tu vois Jean-Claude Van Damme dans un soleil couchant, zen, t'as la caméra qui recule et tu vois qu'il est sur deux camions Volvo qui commencent à s'écarter. Et il fait un grand écart entre les deux camions, sans trucage.
Et là, il peut encore le faire.
Il peut. Non, mais là, c'est parce que les camions sont écartés qu'il peut le faire. Mais les mecs, ils sont bien entraînés. Parce que, sinon, ils seraient dessous, quoi.
Bon, en tout cas, JCVD ce soir sur RTL 9 à partir de 20h40. Hein, mort subite, puis chasse à l'homme. Sinon, sur Ciné Plus Classique, c'est le cas de le dire, c'est un très grand classique de la comédie italienne. Et vraiment un excellent film d'Ettore Scola. C'est le affreux sale et méchant avec entre autres Nino Manfredi, Ettore Garofalo.
Tu vas y arriver.
Bref, que du bonheur. Demain sur Arte, toujours la thématique western avec le grand classique Le Train Sifflera Trois Fois de Fred Zinnemann en 52. Gary Cooper, Grace Kelly, Lloyd Bridges, Lee Van Cleef et tout. Alors, c'est pas tellement un film rapide. Il y a toute une partie qui est très très lente dans le film, c'est l'attente en fait, qui est très très bien décrite. Et pour les gens qui croient que c'est un film qui est un petit peu chiant parce qu'ils ont déjà vu quelques séquences et des trucs comme ça, le film est très court, il fait 1h20 de toute façon, hein, c'était le format de l'époque. Mais par contre, bon, bah, le film a rapporté quelques pépettes et je crois même quelques distinctions. Après ce Train sifflera trois fois à 22h05 sur Arte, et bien toujours un documentaire consacré au western. Et là, c'est le documentaire de Billy the Kid, documentaire de John Maggio, qui avait déjà été diffusé sur Arte, mais qui passait plutôt dans les après-midi, documentaire de 2012. Sur HD1 à 20h50, Créance de sang, le film de Clint Eastwood tiré du bouquin de Michael Connelly, avec Wanda De Jesus, Jeff Daniels, Angelica Houston.
Très bon polar.
Ouais, sympathique quoi, on va dire. Hein. C'est pas un énorme polar et tout. En
oui,
plus,
oui, mais il a transformé l'ambiance.
Eastwood a transformé la fin.
Bien sûr, c'est une adaptation cinéma.
C'est une adaptation que Connelly a plus ou moins pas mal descendu dans ses bouquins. Donc voilà.
Ah, d'accord, ok.
Oui, bah lis ce que j'ai écrit, tu verras que Connelly n'a pas été content du tout. Bon, il a empêché le pognon, bon, ça c'est clair, il n'y a pas de problème, mais bon, ok.
Et ça lui permet de jouer à la table de poker de Castle.
Ouais. Oui. Ou pas que ça, quoi. Ciné Plus Classique demain également à 20h45, Les Raisins de la Colère de John Ford. Alors là, c'est l'adaptation du bouquin de Steinbeck, bien sûr, c'est en 1940. Et avec Henry Fonda, John Carradine et tout, mais alors c'est un.
Il faut raconter quand même que au départ, Les Raisins de la Colère, c'est une suite d'articles, c'est une compilation d'articles, c'est un reportage de fond sur le Middle West qui a été frappé à la fois par la crise économique et par une grande sécheresse, ce qui a entraîné une grande migration vers la Californie avec d'énormes tensions. Je vais pas dire racial ou xénophobe, hein, mais pas loin, hein, entre blancs, quoi.
Ah bah oui, parce que c'est surtout l'État de l'Oklahoma qui a été ravagé pratiquement quoi à 90%, et il y a au moins, je crois, le chiffre est énorme, hein, mais je crois que près d'un demi-million d'habitants étaient partis justement quoi, et étaient partis en Californie quoi, bien sûr, là où le soleil brille tout le temps quoi. Et je pourrais faire pratiquement une émission entière de musique où on se fout de la gueule des Hokies, c'est-à-dire des habitants techno de l'Oklahoma qui sont retrouvés dans un autre état et puis mais qui gardent toujours leurs attributs de pecno de enfin bon, ça c'est un truc qui est très très classique.
Sachant que le film il a été mis en production même pas trois ans après l'apparition du livre, hein.
Deux
c'était
ans.
Rapide.
Ouais, 2 ans, hein, je crois qu'il est sorti en 38 le bouquin, le film sort en 40 donc avec Henry Fonda, John Carradine et avec des scènes, et là si tu te rends compte que John Ford est un peu de cinéaste, parce que la scène où tu vois Henry Fonda et sa famille qui arrivent en carriole comme ça quoi dans le camp, et tu vois un espèce de travelling comme vachement long qui en fait tous les gens qui sont amassés sur le bord et qui les regardent passer avec des tronches, avec des accoutrements incroyables, enfin bon, on dit c'est pratiquement du Freaks quoi, tu vois, c'est énorme quoi. Là bon, si vous avez jamais vu ce film et tout ça, c'est un monument quoi. De toute façon, c'est déjà un monument de la littérature et c'est également un monument du cinéma quoi. Et la découverte pratiquement d'un acteur, hein, Henry Fonda quoi. Quoique, on verra un petit peu plus tard. Alors ça c'est dimanche donc sur Ciné Plus Classique. Ensuite, tournez la page, lundi, Paris Première vous propose une soirée Bertrand Blier avec deux excellents films de Bertrand Blier. Tout d'abord, le film qu'il a fait connaître, Les Valseuses, le premier gros succès de Bertrand Blier, fils de Bernard. Et un Bernard qu'il va faire jouer d'ailleurs dans un papa qui va faire jouer dans son meilleur film selon moi, Buffet froid en 79, un monument d'humour noir absolu quoi. Enfin moi, Blier n'a jamais fait mieux que ça de toute façon pour moi. Et entre les deux à 22h25 un lundi sur Paris Première, eh bien un documentaire sur les valseuses, Les valseuses, une histoire de culte. Un documentaire de Claude Olivier qui date de 2008. Donc ça c'est lundi. Lundi également sur D8, bah un petit polar énervé qui peut être sympa, c'est Blitz de Elliot Lesten, coproduction anglo-américaine, on va dire, hein, parce qu'il y a plus d'anglais que d'américains. Jason Statham, c'est bien sûr. Hein, mais il y a également Paddy Considine, Aidan Gillen et tout, donc un casting
pas mal, ouais. Ah ouais, ça en va.
Un peu béton, quoi, ah on va ouais. dire. Et le film est assez plaisant à regarder quand même. Sinon, bah bon, c'est sûr qu'en face de ce que propose Polar, il n'y a pas photo, c'est clair, mais quand même, on peut se laisser tenter, surtout si on connaît le film. Certainement, le deuxième souffle de Melville en 66 avec Ventura, Paul Meurice, c'est sur Polar lundi à 20h50. Là, bah écoutez,
c'est du bon, ça. Ça, c'est du bon.
Ouais, ça, c'est du bon. Du bon également, mardi sur M6 à 20h50 avec le meilleur de la saga Star Wars, Empire Strikes Back, qui est d'ailleurs le film que Lucas n'a pas réalisé, vu qu'il est réalisé par Irwin Kirchner.
Oui, tout à fait.
Eh ouais, le meilleur de Lucas, c'est même pas Lucas qui
largement le plus, le plus tragique et le plus beau, et à découvrir, malheureusement. On ne verra jamais dans l'émotion de l'origine, hein, puisque ça a été pollué par l'infographie en 99-2000 quand il a refait.
C'était triste. Ouais, je sais pas, mais enfin, je l'avais vu quand il était sorti.
Moi, je connaissais la version d'avant qui était, qui a une esthétique crade et tout ça, tandis que là, on essaie de trop rajouter avec des effets spéciaux.
Ok, ça c'est sur M6 mardi, ou sinon sur Energy 12, vous pouvez vous laisser tenter par Age of Dinosaurs de Joseph Lawson, avec les rôles alimentaires de Treat Williams et de Ronnie Cox, hein, dans cette espèce de nanar intersidéral. Nanar, nettement plus terre à terre.
Un film avec Bernard Tapie?
Non.
On va le faire, une spéciale Nanar.
À 20h50, et déjà, quand tu lis le titre, tu dis, ouais, quand même, il y en a, on se demande ce qu'ils foutent. New York Volcano de Robert Lee en 2006, avec Alexandra Paul, ah oui, Baywatch, Costas Mandylor et Michael Ironside.
Géologiquement, je pense qu'ils auraient pu se payer un consultant, ils auraient compris que c'était ridicule.
Ah ben non, justement pas, quoi. C'est sur D17, donc mardi prochain.
Bah,
sur
FX, c'est ridicule.
Oui, sur FX, par contre, à 20h50, La quatrième dimension, le film à sketch de John Landis, Joe Dante, Steven Spielberg et George Miller en 83, excellent, magnifique, qui est
très hommage
en fait à la série originelle de Rod Serling.
Mais c'est des histoires qui avaient déjà été
Ce sont des réadaptations d'images originales de la série en noir et blanc. Hein.
Ils ont repris les scénarios et ils les ont retournés.
C'est ce que je te dis.
Non, t'as dit adaptation de l'image originale. Non, pas du tout. Ça a été retourné à partir des scripts, quoi.
Non, mais d'accord.
Voilà. Ok. Tu t'es planté.
Attends. Non, je me suis planté, mais bon.
Ça t'arrive.
Action, on vous propose A Bittersweet Life à 20h50. Kim Joo Won, Lee Bu Young.
C'est
mal.
C'est bien.
Par contre, mercredi, allez, je vous ai sorti Mad Max 2. Sur RTL9, parce que bon, il est quand même bien sympathique, il faut dire ce qu'il est.
Mieux que le premier d'ailleurs, hein, c'est rare dans les suites.
Alors là, les avis diffèrent justement. Il y a grosse polémique pour savoir qui. Il y a des gens qui préfèrent le 2, il y a des gens qui préfèrent le 1.
Voilà, je viens d'ouvrir la boîte à Pandore.
Le 3 est de toute façon hors compétition. Bon, en tout cas, ça reste quand même, c'est un bon film. Sur TCM également, un bon film de western sur la piste des Mohawks de John Ford en 1939, donc un an avant Les Raisins à colère, avec un certain Henry Fonda dans le rôle titre.
Tout jeune.
Et Claudette Colbert. Alors c'est pas mal parce que le couple Henry Fonda et Claudette Colbert qui sont des deux. Un couple de pionniers, c'est-à-dire qu'ils vont se dépasser pour se trouver un endroit pour pouvoir cultiver la terre, se retrouvent piégés par la guerre d'indépendance, par les batailles contre les Indiens et tout. Et en fait, ils servent d'œil à la caméra de, et à la, et d'œil et
de, oui, ils sont témoins passifs.
Ils sont témoins passifs de ce qui se passe et tout des bouleversements qu'il y a dans cette Amérique de ces temps-là, quoi. Et de ce côté-là, c'est carrément nickel, quoi. John Ford, comme d'habitude et tout. C'est pas un super gros monument, quoi, mais c'est quand même un excellent film.
Faut que je t'apprenne à faire un peu plus de pause, non?
Ouais, mais d'habitude, comme vous m'interrompez, que vous commencez à raconter des conneries tout pendant que je fais le truc, ça me fait les pauses, tu vois. Réécoute les anciens potasses.
Vous écoutez Radio FMR, c'est le supplément week-end, il est 13h19 minutes.
Alors, jeudi maintenant sur Arte, DCI Banks, il y en a plus pour l'instant, et on nous propose une mini-série en 4 épisodes qui s'appelle Secret State, avec quand même un pitch qui est quand même assez osé, on va dire. Là on est dans le thriller politique, le film des, les films d'espionnage politique, parce qu'au départ, eh bien, une filiale américaine d'une usine américaine en Angleterre, d'une usine donc explose, et quand le premier ministre qui va aux États-Unis pour un petit peu voir de quoi il s'agit et tout, quoi, enfin avec les représentants américains et tout, rentre chez lui, son avion se casse la gueule. Donc voilà quel est le pitch de départ.
Quel manque de bol.
quel est le pitch de départ. Et donc ils vont avoir fort à faire pour essayer de dénouer toute cette affaire Secret State. Ça s'appelle, avec Gabriel Byrne par contre, là également casting bien, Ralph Ineson, Charles Dance, donc ça peut vraiment le faire. Ce qui le fait vachement moins, c'est que Arte a décidé de diffuser les 4 épisodes à la suite, donc ça vous fait plus de 3 heures. Ouais, 3 heures.
Ouais, super. Ouais, ça remplit un disque dur et on pourra se le faire sur un mois tranquille.
Ah bah ouais, si tu prends comme ça. Oh, ouais. Après tout.
Maintenant, je n'en ai plus rien à foutre. Ça permet de skipper les pubs. Mais comme il n'y en a pas sur Arte.
Alors, sur Paris Première, jeudi prochain à 20h50, Paris Première, soirée bourrin, quoi, film de guerre. L'enfer du devoir, tout d'abord, de William Friedkin.
Oui,
ouais,
oui,
bon, pas mal, hein. Oui. Tommy Lee Jones, Jackson, Guy Pearce, Ben Kingsley. Suivi de 22h50, la chute du Faucon Noir de Ridley Scott. Sur Sci-Fi, ouais, c'est le nanar du jeudi. Alors celui-là, je vous en ai déjà parlé, mais bon, il est pas mal, il est sympa, quoi. Frankenfish, terreur dans les bayous. Les piranhas cannibales de Marc DZZP. Le film date de 2004. C'est assez sympathique et tout. On voit un petit peu de chair fraîche et tout. Beaucoup de flotte. C'est normal, hein. Ça se passe dans les bayous. Sur OCS Max. Ah, celui-là, il fallait que je le mette. Et puis, ils le diffusent pas souvent, celui-là. Par contre, ils diffusent plutôt le chanteur de Mexico. C'est les Violettes Impériales. Et comme c'est la fête de la Violette à Toulouse ce week-end, je me suis dit, je vais en parler. C'est le film de Richard Potier avec le magnifique couple Luis Mariano et Carmen Sevilla. Surtout, quoi. Alors, d'habitude, c'est toujours Luis Mariano. Que Potier a souvent accouplé. Non. il a surtout fait jouer Luis Mariano avec des vedettes du musical français, on va dire. Alors que là, c'est Carmen Sevilla qui est quand même une des grandes dames de la chanson andalouse et espagnole. Ça, c'est sur OCS Max, donc jeudi prochain, 20h40. Sur Polar, à 20h50, The Hit. Alors, c'est pas The Hit de Soderbergh, mais il y a quand même une similitude parce que c'est le The Hit de Stephen Frears en 84. Donc, qui est pas son premier, mais presque, hein, et qui est vraiment très très bien, cette histoire. Bon, c'est Terrence Stamp qui joue au principal, c'est un tueur à gages, il doit remplir un dernier contrat, puis ensuite il le fait pas, et donc il se barre en Espagne, mais les mecs qui lui avaient donné le contrat, vont le buter, quoi, vont le rechercher, et le buter, c'est ça, quoi. Le The Hit, c'est le contrat, en fait, hein, la traduction. En fait, c'est lui qui va devenir le contrat. Mais par contre, c'est excellent. Terrence Stamp, John Hurt, Tim Roth, qui était tout jeune à l'époque, hein, vraiment tout jeune, quoi. Et l'immense Fernando Rey, l'acteur espagnol Charnier dans French Connection. Alors, c'est marrant parce que justement, je disais à pas confondre avec le The Hit de Soderbergh, parce que dans The Hit de Soderbergh, c'est un petit peu la même, pas force, c'est pas la même histoire, c'est une histoire de vengeance, parce que c'est Terrence Stamp qui va essayer de retrouver sa fille à Los Angeles. Sa fille, je crois, qui a été dégommée, un truc comme ça, quoi. Et lui, il arrive de Londres et tout, donc c'est londonien, quoi. Et bon, mais c'est pareil, hein, Terrence Stamp, bien, traverse tout le film de la même façon, pratiquement, que dans le The Hit de Stephen Frears. Enfin, comme il a l'habitude de le faire, Terrence Stamp, quoi, d'ailleurs, quoi. FX vous propose, là, c'est un excellent film, 20h50, Faux Semblant de Cronenberg, avec Geneviève Bujold, Jeremy Irons qui fait une performance incroyable dans ce film. Et à l'époque, il y a des effets spéciaux dans ce film, mais à l'époque, c'est tout juste, il travaillait pas avec la bite et le couteau, quoi. Hein, au niveau effets spéciaux par rapport à ce qu'on fait maintenant, quoi. Hein, vu que l'informatique, c'était un petit peu balbutiant à l'époque, en 1988. Du moins pour s'occuper de cinéma. Mais c'est vraiment un excellent film. Attention, c'est assez dérangeant, hein, comme sujet. On va dire donc les enfants, on va éviter quand même, hein, ça c'est clair, quoi. C'est Cronenberg aussi de toute façon, quoi. Histoire vous propose, Histoire qui diffuse normalement, qui est une chaîne de documentaires, hein, mais qui diffuse de temps en temps des films. Mais tous les jeudis soirs, diffuse un film qui a trait avec une période historique, et il y a un débat qui est organisé juste après. Là, c'est L'Aigle à deux têtes de Jean Cocteau qui est proposé.
Ah,
donc,
ouais.
Avec Edwige Feuillère et Jean Marais. Pas mal, film vraiment assez sympathique.
Attention, c'est du Cocteau, hein.
Oui.
Donc attention, c'est la poésie surréaliste et tout ça. Mais
C'est un petit peu moins,
un petit peu moins quand même. Moins que d'habitude, mais
quand
même.
Il y a un petit discours politique quand même sous-jacent, truc comme ça et tout. Hein, c'est l'anarque qui vient tuer, qui tombe amoureux. Enfin, c'est c'est sympathique quand même. Donc ça, c'est sur la chaîne Histoire jeudi prochain à 20h40. On termine avec vendredi à RTL9. Vous propose à 22h15 Le Royaume de Peter Berg. Là aussi un grand bon film de guerre avec Jamie Foxx, Chris Cooper, Jennifer Garner. Ciné plus Frisson vous propose Machete, le film co-réalisé par Enrique Maniakis et Roberto Rodriguez, avec Steven Seagal, Jessica Alba. Ouais, il y a aussi Danny Trejo, mais c'est un film où c'est lui normalement qui est devant et qui a la machette. C'est lui qu'on appelle Machete d'ailleurs. Et De Niro également, enfin bon, voilà. Pour un petit vendredi soir sympathique.
Oui, hein, qui le fait.
Voilà. Et juste après, vous passez sur Ciné plus Classique et vous matez Les Producteurs de Mel Brooks.
Ah! Tu en as déjà parlé il y a deux mois.
Non, la semaine dernière, je crois. La semaine dernière.
Il
n'y a pas longtemps, quoi, de toute façon, quoi. Parce que là, ils ont l'air de le rediffuser en multi de temps en temps, quoi.
Oui, Canal Sat est un petit peu en manque de programme. Hein.
OCS Géant vous propose vendredi prochain à 20h40, Le Jour se lève de Carnet. Alors, film tout en flashback, hein, c'est Gabin, l'assaut va être donné dans la maison où il s'est retranché, et il va se remémorer tout ce qui s'est passé depuis le point de départ qui le fait arriver dans cette baraque, et là c'est magnifique, c'est excellent, quoi, hein, Carnet, donc Prévert, les décors de Trauner, Gabin, Arletty, Jules Berry, Bernard Blier.
Non, Bernard, tu vas y arriver un jour. Ouais.
C'est un des grands classiques du ciné français, quoi. C'est tout, quoi. On termine avec un film de bourrin action. On vous propose Born to Fight avec Don Chupang, le film thaïlandais de Pana Ritik Rai, qui sort sur la vague des Hong Bak machin. Sauf que là, c'est plus avec des guns, des machins, trucs comme ça, quoi. Mais c'est bien. C'est vous dire que si vous cherchez l'action, il n'y a pas de problème, vous allez être servi sur Action, donc vendredi prochain, Born to Fight.
<coughs> 13h27, on va faire le petit bonus du suppléant week-end. Si vous allez à Angoulême, si vous descendez la mairie pour aller justement vers le Champ de Mars, vers le Champ de Mars, pardon, pour aller vers les grandes bulles des éditeurs, vous allez tomber au bout d'un moment sur la tête d'Hergé, sculptée en grand, en très grand. Il faut savoir que c'est Chang qui a réalisé cette sculpture. C'est le fameux Chang que Tintin rencontre.
Tintin au Tibet. Non, pas au Tibet.
Mais si.
Si, au Tibet.
Aussi, mais c'est Tintin mais dans et le Lotus Bleu.
Ouais, ouais. Et ensuite. Et après, dans le Tintin au Tibet.
Dans Tintin au Tibet. Donc, c'est Chang qui a réalisé cette sculpture. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Hergé s'est lui-même dessiné à chaque fois dans les albums Tintin, Josette et Joko. Des fois, on le voit passer aussi dans Kick et Flup. On le voit dessiné et stylisé. On ne l'a pas vu dans les dessins animés, dans la série de dessins animés de Belle Vision, mais par contre, il apparaissait systématiquement dans ceux qui ont été réalisés par Ellipse Anime dans les années 90. La question est, est-ce que Hergé a toujours son caméo dans les films à venir ? Puisqu'il en reste deux encore. Et on remercie énormément pour la réalisation de ce supplément week-end, la collaboration de Laurent Méliquian et de Monsieur Wong qui étaient en direct d'Angoulême. C'était le supplément week-end, donc numéro 374. Si je ne me trompe, vous nous écoutez sur Radio FMR. Nous avons parlé du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême. Sachez que ce week-end aussi a lieu en ce moment, d'ailleurs pendant 15 jours, 3 semaines encore, le Festival Made in Asia à Toulouse. Et que Radio FMR est partenaire et que vous pouvez suivre justement toute l'actualité du festival dans le créneau 12-13 dans les impromptus. Culturel et ensuite de 17 à 19. Du sport, tu sais qu'il y en a qui ont suivi l'émission, mais en diagonale et qui arrivent en plein milieu. Est-ce que tu te souviens de ce dont on a parlé ?
Oh là, eh bien, nous sommes allés à Angoulême pour parler de polémique qui fait rage, qui risque peut-être d'enfler dans les jours qui viennent.
Oui,
d'ailleurs,
à mon avis, c'est clair.
Concernant certains stands révisionnistes qui a été mis en place à Angoulême suite à la visite et suite surtout à l'exposition sur les
femmes de réconfort.
Les femmes de réconfort durant la période trouble de l'avant et pendant Seconde Guerre mondiale. Bref, on avait également un monsieur Gbong qui scandaleusement quoi ne nous a rien appris de plus. C'est plutôt nous qui lui avons appris des choses, comment se déplacer à Angoulême un samedi. En tout cas, mais il y aura un débriefing, j'espère, sérieux la semaine prochaine.
Moi aussi. On a aussi parlé de la disparition de Cavana, de Philippe Delaby, et nous avons fait donc rendu un hommage pour les 50 ans à Mafalda. La semaine prochaine, l'équipe sera présente un peu plus au complet, même largement plus au complet, justement pour le débrief. En tout cas, en attendant, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission ainsi que des émissions précédentes en allant sur le site web supplementweekend.fr, sans accent ni tiré, supplementweekend.fr. Et vous pouvez aussi consulter nos chroniques écrites, nous écrire, réagir, n'hésitez pas. Vous écoutez Radio FMR sur 89,1 MHz, en modulation de fréquence à Toulouse. Nous émettons en alternance sur cette fréquence avec Booster FM et nous sommes en continu sur www.radio-fmr.net. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Merci de nous écouter, mais cela nous donne envie de continuer. Et la suite des programmes du sport, tu prends... pas. Il vous plante là, il pleut, donc il faut semer.
Il pleut, voilà, c'est ça, quoi. We'll be right back.
Vous êtes à l'écoute de Radio Éphémère sur le 89.1 FM. Vous êtes à l'écoute de Radio Éphémère sur le 89.1 FM.